RFI TV5 Monde vous présente Afrique Presse, Denise Épothé-Durand.
Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale et Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1. Au sommaire, le Bénin avec le premier anniversaire de Patrice Talon à la tête du pays. Un anniversaire qui intervient sur fond de polémique. Faute de majorité qualifiée, la révision constitutionnelle souhaitée par le président de la République n'a pas été validée par le Parlement. La population réclame, elle, un référendum qui, pour l'heure, n'est pas à l'ordre du jour. En Afrique du Sud, Jacob Zuma est de plus en plus contesté. À la demande de l'opposition, le 18 avril, il affrontera un vote de défiance au Parlement. Par ailleurs, le récent limogeage de son ministre des Finances ravive les tensions au sein d'une ANC en perte de vitesse depuis son revers aux élections locales en 2016. À n'en pas douter, Patrice Talon aurait rêvé mieux comme anniversaire pour fêter ses 12 mois à la tête du Bénin. Faute de majorité qualifiée, mais aussi pour vice de forme, le Parlement a retoqué sa proposition de révision constitutionnelle. Hassan Diop, puisque le fond qui porte sur la durée du mandat présidentiel, un mandat unique de 6 ans, et sur le statut de la femme, c'est surtout la forme que les parlementaires et les citoyens béninois contestent. Est-ce un échec pour Patrice Talon?
Visiblement, c'est un échec, parce qu'il pensait, M. Talon, que le Parlement donc allait se prononcer aux deux tiers au moins pour donc cette révision constitutionnelle. Or, les députés réunis à Porto Novo, donc la capitale du Bénin, ont rejeté ce projet de réforme constitutionnelle. Je crois qu'il y a aussi le rejet de la méthode, parce que M. Patrice Talon avait fait appel à une commission pour préparer cette réforme constitutionnelle. Cette commission des sages avait fait des propositions. Or, ces propositions ont été quasiment retoquées par M. Talon. Il a fait introduire des points litigieux qui avaient été, déconseillés par la commission. Alors, les bons côtés, évidemment, de ce projet de réforme, c'était la parité, etc., etc. Bon, quant à la limitation à un seul mandat pour la présidentielle, c'est discutable. Mais ce qui était encore le plus discutable...
Surtout que ça ne va pas s'appliquer à lui.
Ça ne s'appliquera pas à lui, etc. Voilà, on ne voit pas véritablement la finalité, le côté dynamique, le côté démocratique, etc., de ce mandat unique. En revanche, ce que les Béninois n'ont pas accepté, c'est que finalement ce projet de réforme était resté confidentiel. On ne connaissait pas le contenu réel de ce projet de réforme. Et donc, les députés allaient se prononcer sur un projet à l'aveugle. Et ça, les Béninois ne l'ont pas accepté. En revanche, on sait que dans ce projet de réforme, il était notamment question de points extrêmement discutables et polémiques, c'est-à-dire notamment, c'est le fait que le chef de l'État, les ministres, était complètement immunisé, bénéficiait d'une immunité
politique
et judiciaire. Oui. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les poursuivre ni au cours de leur mandat, ni après les mandats, ce qui laissait la porte ouverte à un certain nombre de turpitudes. D'autant plus que M. Talon, dès qu'il est arrivé aux affaires, s'est empressé de régler ses propres affaires, c'est-à-dire ses propres entreprises cotonnières qui étaient très liées à l'État. Il estimait que notamment que son rival, qu'il avait d'ailleurs
c'était
aidé...
C'était pour réparer une injustice causée par son
prédécesseur. Voilà. Mais je dirais que le fait, les indemnités, les arrangements, etc., etc., qu'il avait décidé en faveur de ses entreprises sont pour l'instant, restés. Est-ce que c'est légal ou pas légal? Tout ça, peut-être qu'un jour, sera mis sur la table.
Stéphanie Hartmann, premier échec du bilan de Patrick Talon.
C'est pas le premier, à mon avis. Depuis un an, on a une longue succession, pas d'échecs, en tout cas d'amateurisme. C'est le sentiment qu'il donne avec sa gestion du pouvoir. C'était le candidat de la rupture. On a du mal à voir la rupture économique. Alors, Hassan Diop l'a rappelé, parmi les premières mesures qui ont été prises durant les premiers conseils des ministres, ça a été que l'État béninois paye les dettes qu'il devait aux entreprises, auparavant dirigées par Patrice Talon, un État qui est déjà fortement endetté. Les Béninois ont le sentiment depuis un an que leurs conditions de vie se sont dégradées. Il a essayé de mettre de l'ordre sur la voie publique avec ce qu'on a appelé le phénomène de déguerpissement. Mais il faut savoir que le Bénin est quand même, comme beaucoup de pays de la région, à une économie informelle. Donc ces vendeurs ambulants sont essentiels pour la survie des Béninois et pour le fait de manger chaque jour. Voilà, beaucoup gagnent leur pain quotidien comme ça. Donc libérer la voie publique sans prévoir des solutions pour ces vendeurs, ça a été une erreur. Concernant la révision constitutionnelle, il avait d'abord annoncé un référendum avant la fin de l'année 2016, décembre 2016, qui n'a pas été fait. Finalement, il a préféré passer par l'Assemblée. Le peuple béninois vient de rappeler ici sa particularité, sa capacité à être surprenant. Et on se souvient, c'est quand même au Bénin qui a été inventé le principe des conférences nationales, et leur capacité à faire pression sur leurs députés pour leur dire « vous êtes les représentations du peuple, ne l'oubliez pas ». Donc effectivement, pour moi, c'est un échec pour Patrice Talon. Cette première année, il a du mal à se faire à la gestion de l'exercice de l'équilibre des pouvoirs. Il va falloir qu'il s'y fasse, d'ailleurs, qu'il soit moins économique et plus politique, parce que sinon, il risque de faire un mandat unique, et ce sera malgré lui.
Hassan Diop, cette décision fait écho justement à la démission la semaine dernière du secrétaire d'État à la Défense, et le résultat conforte son choix.
Oui, au-delà, je crois, de l'amateurisme politique, M. Patrice Talon a introduit au Bénin ce que j'appellerais de la ploutocratie, c'est-à-dire finalement un chef d'État parvenu à être chef d'État grâce à son fric et qui finalement gère le pays à la manière d'une entreprise, ce qui est complètement en déphasage avec les réalités. On l'a vu donc avec ce projet de révision constitutionnelle. Par ailleurs, M. Patrice Talon, lorsqu'il a présenté son programme d'action gouvernementale, c'était de manière très médiatique, il avait fait appel à un grand communicant devant l'Éternel qui s'appelle Monsieur Atias, qui avait donc organisé ce show-off. On allait voir ce qu'on allait voir, c'est-à-dire notamment le Bénin révélé. Alors, en tous les cas, ce que révèle sa première année de gestion, c'est à la fois de l'amateurisme, à la fois il est à côté des attentes des Béninois. Et dans ce projet d'urbanisme, notamment, qui passe par le déguerpissement, on voit bien aussi qu'il y a une forme d'improvisation, parce qu'on fait déguerpir des gens, mais on ne les reloge pas. Ce sont quand même des Béninois, ce sont quand même des citoyens à part entière, etc. Donc il y a une forme de brutalité qui est inacceptable. Par ailleurs, M. Patrice Talon voulait, d'après ses turiféraires, être le président le plus moderne d'Afrique. D'aucuns parlaient de modernité parmi certaines grandes voix des médias que l'on connaît. Eh bien, il se trouve que M. Patrice Talon pratique... une politique classique, connue, qui s'appelle le népotisme, car de nombreux postes diplomatiques, ces derniers temps, ont été attribués à des membres directs de sa famille. On se gardera ici de citer de noms ou de pays, juste pour ne pas fâcher ceux qui sont les bénéficiaires de ces postes et prébendes.
Voilà. Alors Stéphanie Hertmann, en quoi consiste la rupture préconisée par Patrice Talon au moment de son élection ?
Alors j'ai peur d'être sévère. Malheureusement, on ne voit pas de rupture en ce qui concerne la corruption, on ne voit pas de rupture en ce qui concerne la vie économique. On voit une rupture dans le style, effectivement. Alors, je vais reprendre un adjectif, c'est celui de bling-bling. Patrice Talon, rompt par le style. On est loin du bon père de famille que représentait Boni Yayi. On a un président qui communique très peu, si ce n'est sur les réseaux sociaux. À l'occasion d'un an, il ne s'est pas exprimé à la télévision, il a fait un message sur Facebook. Le style Talon, c'est aussi rouler en Porsche dans les rues de Cotonou, donc on peut s'interroger. Je n'ai rien contre cette marque de voiture, mais effectivement, est-ce que le style convient à un pays comme le Bénin ? C'est moins sûr. En tout cas, voilà, je vois une rupture. La rupture, pour moi, elle est pour l'instant que dans le style et pas dans la gouvernance. Voilà.
Et puis peut-être aussi dans l'ignorance. Et puis aussi dans l'ignorance. Patrice Talon est réputé snobé, en tout cas depuis un an, les autres chefs d'État du continent. Il n'est jamais présent au sommet de l'Union africaine. Il n'accorde aucune visite à ses homologues, excepté peut-être Alassane Ouattara, parce qu'il a des affaires en cours, semble-t-il, en Côte d'Ivoire. Mais sorti de là, effectivement, Patrice Talon est invisible sur la scène africaine.
Un dernier mot sur le Bénin.
Oui, au niveau international, effectivement. Donc il s'était montré très proche du président rwandais Paul Kagame, et là encore il a eu cette idée qui a été applaudie par beaucoup d'Africains, qui était d'ouvrir le Bénin à tous les ressortissants. Vous allez dire que vous êtes ressortissant africain, vous n'avez plus besoin de visa. Vous n'avez plus besoin de visa déjà, c'est supprimé, voilà, les visas pour tous les Africains venant au Bénin. Mais là encore, beaucoup d'amateuristes, puisque dans les faits, beaucoup d'Africains se sont retrouvés bloqués dans les aéroports, n'ont pas pu prendre l'avion s'il n'y avait pas de visa pour le Bénin.
Voilà, mais il n'a qu'un an de mandat, donc attendons de voir.
Ne soyons pas si sévères, laissons-lui le temps, puisqu'il a un mandat de 5 ans. À 2 ans des élections générales, Jacob Zuma est de plus en plus contesté au sein de l'ANC. Les nombreux scandales dans lesquels est impliqué le président sud-africain et la récente éviction du ministre des Finances divisent le parti qui domine la scène politique nationale depuis 1994. Le reportage de Laure de Matos.
La charge vient cette fois-ci d'un allié historique de l'ANC.
La COSATU ne croit plus que le président soit la bonne personne pour unifier et mener le mouvement. Nous pensons qu'après toutes ces indéniables contributions au mouvement et au gouvernement, le moment est venu pour lui de démissionner.
La COSATU, la puissante confédération syndicale sud-africaine, lâche Jacob Zuma. Avec le Parti communiste, qui a lui appelé lundi à sa démission, et l'ANC, le parti au pouvoir, le syndicat forme une alliance depuis la fin de l'apartheid. Les trois organisations sont censées travailler main dans la main, prendre des décisions communes. Et pour la COSATU, Jacob Zuma n'a pas respecté ce devoir de concertation. En particulier la semaine dernière, lorsqu'il a limogé son ministre des Finances, Pravin Gordhan. L'homme avait la confiance du peuple, mais aussi des marchés, car il était vu comme le garant de la bonne gestion de ce gouvernement. Lundi, l'agence Standard & Poor's a abaissé la note de l'Afrique du Sud en catégorie junk, autrement dit à risque. C'est un fidèle du président Malusi Gigaba qui gère désormais les finances sud-africaines. La pression monte sur Jacob Zuma, embourbé depuis plusieurs mois dans une série de scandales. Même au sein de l'ANC, certains veulent le voir partir. L'ANC qui a le pouvoir de démettre le chef de l'État, il l'avait fait en 2008 pour le prédécesseur de Jacob Zuma, son rival Thabo Mbeki.
Hassan Diop, première conséquence de l'éviction du ministre des Finances, Pravin Gordhan, surnommé Monsieur Propre. La note de l'Afrique du Sud a été abaissée, le rand perd 7% de sa valeur, une sanction qui pourrait coûter très cher à la première économie du continent.
Oui, on se souvient que le Nigeria, à un moment donné, était devenu la première puissance économique devant l'Afrique du Sud et que l'Afrique du Sud était aussi à une certaine période récente en récession. Donc l'émergence n'est pas totalement au rendez-vous. L'Afrique du Sud est confrontée à des difficultés énormes sur le plan social. On voit bien, et ça a été illustré, on se souvient ici, on en a parlé, hein, ça s'illustre par des montées de xénophobie de la part notamment des communautés noires contre des Africains étrangers en Afrique du Sud. Donc sur le plan politique, effectivement, Jacob Zuma ne répond pas là aussi aux attentes des Sud-Africains. Par ailleurs, Jacob Zuma, et ça ne date pas de quelques mois, Jacob Zuma traîne de nombreuses affaires. Et le divorce avec Thabo Mbeki en 2005, il était, souvenez-vous, vice-président de Thabo Mbeki et que Thabo Mbeki l'avait évincé parce que Jacob Zuma avait déjà été impliqué dans un problème de corruption.
Avec Thalès,
lié notamment à des achats d'armes, etc. Et ces chefs d'inculpation, d'ailleurs, il a voulu ensuite les effacer, mais malheureusement, un certain nombre de juridictions sud-africaines ont maintenu ces chefs d'inculpation. Alors, reste à savoir si, effectivement, Jacob Zuma, qui fait l'objet d'une motion de défiance, sera, oui ou non, démis de ses fonctions. Je doute. Je doute que les députés du CAP, qui seront donc réunis le 18 pour examiner cette motion de défiance, votent le départ de Jacob Zuma, tout simplement parce que ça reviendrait à jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, on sait que depuis les élections municipales, l'ANC est très affaibli. L'ANC a perdu un certain nombre, les grandes villes finalement du pays, hein, les municipalités, etc. Et qu'aujourd'hui, démissionner Zuma, c'est affaiblir le parti. Or, je pense qu'ils vont jouer l'attentisme, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mandat.
Continuer encore deux ans. Hein.
Continuer encore deux ans. En revanche, c'est peut-être Madame Zuma, l'ex-Madame Zuma, de la mini Zuma, qui risque, elle, je dirais, d'être la victime indirecte, puisqu'on sait qu'elle brigue la présidence de l'ANC, qui est le point de départ pour devenir le chef de l'État, face à Cyril Ramaphosa. Et je pense que c'est plutôt Cyril Ramaphosa sera sans doute le prochain leader de l'ANC.
Et donc, il est aujourd'hui vice-président.
Il est vice-président et donc le successeur sans doute de Jacob Zuma et non Madame Dlamini Zuma, parce que Madame Dlamini Zuma, dans l'esprit de beaucoup de Sud-Africains, ça sera la continuation de son ex-mari.
Stéphane Yardman, comment expliquer la popularité que conserve Jacob Zuma malgré les scandales qui traînent depuis bientôt une dizaine d'années?
Je pense que effectivement Jacob Zuma est populaire et aussi parce que il est un peu populiste. Moi, ce que je crains, c'est que face à cette contestation qu'il y a au sein de l'ANC également, et l'ANC domine la vie politique sud-africaine, et je pense aussi que l'Afrique du Sud est en train d'opérer aussi une mutation, c'est-à-dire qu'on est passé d'un schéma politique post-libération où l'ANC était dominante et l'ANC est en train de s'effriter.
Il y a déjà eu la scission en 2009
avec la création du parti de Thabo Mbeki qui n'a pas pris. Les dirigeants de l'ANC essayent de faire tenir l'ANC non non pas jusqu'aux prochaines élections, mais au moins jusqu'au prochain congrès, voilà, qui déterminera effectivement qui sera le prochain président de l'ANC et qui sera donc le candidat pour l'ANC pour les élections générales présidentielles de 2019. La règle de Tacite voudrait que ce soit Cyril Ramaphosa, qui est donc vice-président. Et moi, ce que je crains, c'est que finalement, face à cette contestation, Jacob Zuma tire un peu plus sur la corde populiste. Il l'a fait récemment, je veux dire, en s'inquiétant des inégalités économiques entre noirs et blancs. Il serait peut-être un peu de temps, ça fait un certain nombre d'années qu'il est au pouvoir. Donc je crains qu'au fur et à mesure que la contestation enfle, il joue sur cette fibre-là, raciale, les tensions raciales, les inégalités économiques, pour effectivement renforcer sa base et sa popularité. On a vu d'autres présidents
aujourd'hui,
faire ailleurs.
Aujourd'hui, les manifestations sont prévues à la fois à Pretoria et à Johannesburg pour dénoncer justement la corruption.
Bah oui, ce vendredi. Et Jacob Zuma est comptable aussi finalement du fait que ce fossé entre noirs et blancs, du point de vue économique, reste béant, voire s'est agrandi. Il y a eu des études qui ont été menées effectivement par les instituts, des instituts publics, hein, sur la disparité, etc., etc. Et il s'avère qu'effectivement que la communauté noire s'est davantage appauvrie et que la communauté blanche reste une communauté socialement dominante. Alors, au lieu d'incriminer, je dirais, la communauté blanche, il aurait dû, Jacob Zuma, appliquer une politique effectivement qui permette l'émergence éventuellement d'une classe moyenne noire, qui permette
ce qu'ont fait Thabo Mbeki et Nelson Mandela.
Oui, Thabo Mbeki, l'ANC l'a évincé pour des raisons bassement politiques et sous l'influence de Jacob Zuma, mais Thabo Mbeki
et de Julius Malema.
Et de Julius Malema, enfin, c'est des démagogues. Julius Malema aussi est un démagogue né. Eh bien, Thabo Mbeki avait créé des millions d'emplois. Thabo Mbeki avait fait grimper la croissance avec des chiffres extraordinaires, à tel point effectivement qu'on parlait de l'Afrique du Sud comme un des géants de demain. Depuis que Jacob Zuma est au pouvoir, eh bien, c'est recul sur recul, à quoi s'ajoute effectivement une image absolument négative, je dirais, sur le plan politique et sur le plan moral de sa présidence, et une image effectivement qui ternit l'image de l'ANC.
On voit d'ailleurs, Stéphanie Hartmann, que même la COSATU, qui est le syndicat proche de l'ANC, est opposé à Jacob Zuma.
Allié historique de l'ANC, comme le Parti communiste, qui ont lâché l'ANC. Ça remonte, ce que je disais tout à l'heure, un effritement de l'ANC. Et l'ANC va devoir choisir dans quelques mois entre est-ce qu'elle veut être un parti qui sert une classe politique affairiste, comme ça, dominant, garder des intérêts et corrompu jusqu'à. On peut voir ce qui s'est passé au Zimbabwe, par exemple. Ou si, l'ANC va être la garante de la démocratie sud-africaine, qui est, à mon avis, l'une des plus grandes démocraties du continent. Dans ces cas-là, faire évincer Jacob Zuma et ses proches des prochaines élections.
L'héritage de Nelson Mandela a été détourné.
Enfin, pas détourné, mais en tout cas terni. Les mandats de Jacob Zuma sont vraiment des mandats qui auront terni l'image de l'ANC et l'héritage de Nelson Mandela. Donc aujourd'hui, quand on parle de la présidence de Jacob Zuma, on parle d'affairisme, de corruption, etc. Alors, bon, encore une fois, je dirais l'histoire où la présidence du seul Jacob Zuma ne devrait pas évidemment nous conduire à un jugement définitif sur l'ANC. Je pense que les dirigeants de l'ANC sauront à un moment donné se ressaisir. Mais il y a quand même des enjeux politiques derrière tout ça. Encore une fois.
C'est la succession de 2019.
C'est la succession de 2019. On en saura plus en décembre, au moment des élections, lorsque l'ANC sera réunie en congrès et désignera son nouveau chef. Donc, il sera normalement le candidat qui sera investi pour succéder éventuellement à Jacob Zuma. Je pense qu'effectivement que la corruption est un véritable fléau sur le continent et qu'il faut le combattre.
Un dernier mot, Stéphanie Hartmann, Cyril Ramaphosa, futur successeur de Jacob Zuma. On le sait également très proche de Winnie Mandela, qui est encore très influente au sein de l'ANC.
À mon avis, Cyril Ramaphosa fait partie des garants de l'ADN de l'ANC, compagnon de Nelson Mandela. J'en profite pour souligner, rendre hommage aussi à Ahmed Kathrada, qui nous a quittés il y a quelques temps.
Et qui avait fait, compagnon de Mandela.
Voilà, et qui avait fait aussi une lettre ouverte pour dénoncer et demander à Jacob Zuma de démissionner. Okay. Donc, si Cyril Ramaphosa reprenait les rênes de l'ANC en décembre prochain, ça serait une bonne nouvelle à mon avis pour l'Afrique du Sud.
C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Sam Diop de RFI et Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.